Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tous les amateurs de vélo vous le diront, les meilleures siestes du monde, c'est celles qu'on passe en juillet devant le Tour de France. Oui, sauf que cette année, les Français font des merveilles sur la grande boucle et ça empêche tout le monde de roupiller. Les audiences de France Télévisions sont dopées par les prestations de Pino et d'Alaphilippe. Alors se repose la question de l'avenir du petit écran. La télé est morte, on entend ça partout tout le temps. En tout cas, la télé à l'ancienne, la télé en flux, pas les plateformes de streaming. Mais faut-il mettre dans le même panier les habitudes et les grands événements quand on parle de petit écran ? Sans compter que Netflix, aux États-Unis, commence à perdre des abonnés. Résultat, son action en bourse dégringole. En France, les audiences du mondial féminin de football ont surpris tout le monde. Faut-il y voir une preuve que les grands événements vont continuer à rassembler ? Attention aux géants du net qui lorgnent sur les droits de diffusion des grandes compétitions sportives. Au-delà du contenu se pose la question des générations. Dis-moi comment tu regardes la télé, je te dirai quel âge tu as. Les jeunes boudent la petite lucarne, est-ce à dire qu'ils n'y viendront jamais en vieillissant ? La question est posée. J'attends vos témoignages, chers auditeurs. Comment regardez-vous la télé si vous le faites encore ? Et quand on vous dit télé d'ailleurs, vous pensez à l'objet ou au contenu ? Imitez-vous le replay et les chaînes YouTube. Racontez-nous votre télévision sur l'appli France Inter de votre téléphone, sur notre site internet ou sur Twitter. Va-t-on zapper la télé ? C'est la question qu'on se met sous la dent jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Avec quatre personnes en direct dans ce studio, tous observateurs aguerris des médias. Bonjour Bruno Patineau.
Bonjour.
Directeur éditorial de la chaîne Arte, après quelques années à la direction des programmes de France Télévisions. Ancien directeur de France Culture, vous êtes aussi passé par le journal Le Monde. Bref, vous êtes un patron de vieux médias, mais préoccupé depuis longtemps par leur développement numérique. Votre dernier livre parle de notre dépendance aux écrans. La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention chez Grasset. On y apprend de jolis mots dans ce livre, Bruno Patineau, et notamment l'atasagoraphobie. Ça y est, j'étais sûre que j'y arriverais pas.
L'atasagoraphobie. La
quoi
peur d'être oublié.
La peur d'être oublié. Et ça, c'est numérique.
En tout cas, ça se manifeste quand on regarde de façon désespérée nos différents réseaux sociaux pour voir si on nous a likés,
partagés,
aimés ou autres. Et cette peur de ne plus exister, en fait, c'est l'atasagoraphobie. Voilà, je m'étais beaucoup entraîné.
Est-ce que vous êtes
la première fois, je l'ai passé.
Vous êtes atasagoraphobe, vous, pour ne pas dire ?
Non, mais nomophobe, oui. C'est-à-dire que j'ai peur de me passer de mon portable.
Ça, c'est terrible. Hein, quand on oublie chez soi le matin, la journée...
C'est pas possible, on revient chez soi.
À vos côtés, Pascal Le Chevalier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant chez What's Hot Media et blogueur pour le site ZDNet. Séverine Barthes est en face de vous, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 3. Vous avez co-dirigé la dernière revue annuelle intitulée Télévision aux éditions du CNRS. Et puis Alexandra Hakoun, bonjour.
Bonjour Dorothée.
Alexandra Hakoun de France Inter, spécialiste média de la rédaction. Alors quand on dit que la télé est morte, toute la question est de savoir si on parle de la télé en flux, de la télé linéaire, comme on dit, ou du poste de télévision. Question très terre-à-terre volontairement pour commencer. Est-ce qu'on a du souci à se faire pour les fabricants de téléviseurs, à votre avis, Alexandra ?
Mais pour l'instant, le taux d'équipement est encore assez haut, hein, à 93%, je crois, de la population française. Donc non, pas encore, en tout cas pour ce qui est des écrans et de la bonne vieille télé dans le salon. Après les autres écrans se développent de plus en plus, donc on va voir.
Séverine Barthes, les fabricants de télé ?
Peut-être. Alors d'abord, ils font sans doute pas que de la télévision, enfin, pas que des téléviseurs, ils ont d'autres produits, notamment les écrans d'ordinateur. Hein, il y a souvent des constructeurs qui font les deux. On peut quand même noter que quelque chose qui n'existait pas auparavant, qui était l'équipement en vidéoprojecteur chez les gens, là je parle pas d'équipement professionnel, augmente. Et donc de ce point de vue-là, ça tend à remplacer ou à venir compléter le téléviseur sur certains usages.
Pascal Le Chevalier, vous arrivez, vous, à imaginer un monde dans lequel il n'y a plus de télévision dans le salon ?
Difficilement, dans la mesure où les fabricants de téléviseurs spéculent aussi sur les grands événements sportifs pour lancer de nouveaux modèles, avec une technologie qui a quand même beaucoup évolué depuis 15 ans. Je rappelle qu'il y a 15 ans, on avait encore des tubes CRT avec des télés qui mesuraient 1 mètre de profondeur. On est passé à des écrans plats qui vont jusqu'à 85 pouces, c'est-à-dire plus d'1,60 m de diagonale, avec une définition terrible, et qu'à un moment donné... Pour quelques centaines d'euros, on peut avoir un téléviseur aujourd'hui dans son salon, même si on ne le regarde pas beaucoup. Donc il y a encore l'aspect cadeau, l'aspect tentation, même si les jeunes, et je crois qu'on peut tous en témoigner, ne regardent plus forcément cet objet parce qu'ils utilisent les autres écrans.
Je parlais du Tour de France à l'instant, Bruno Patino. C'est vrai qu'on l'imagine difficilement ailleurs que sur le canapé, sur la télé du salon ?
Non, en tout cas, l'écran spectaculaire du salon, il a de beaux jours devant soi. Il est de plus en plus plat, sans doute à un moment donné incurvé. L'image 4K, 8K, 32K, dit-on un jour. Bref, ça devient de plus en plus spectaculaire. Mais ce qui est assez drôle, c'est que pour le moment, c'est devenu un truc très compliqué. C'est-à-dire que toutes les technologies qui se sont additionnées fait que, pour certains d'entre nous, regarder la télévision devient de plus en plus compliqué. Quelle source prendre, quelle télécommande ou autre.
Il faut toujours expliquer quand on prête son appart comment on allume la télé.
Et je pense que le prochain défi, ça sera du téléviseur spectaculaire sans fil, c'est-à-dire qu'il sera simple à utiliser. Et à ce moment-là, on pourra dire que ça ne se dissocie plus, ça se différencie plus fortement d'un autre type d'écran. Moi, juste pour terminer, j'étais très marqué par une étude qui avait été faite il y a déjà 6 ans aux États-Unis, où on avait demandé à des jeunes qui avaient 10 ans comment arriver la télé à domicile par technologie. Ah. Et 80% des jeunes ne savaient pas répondre. C'est-à-dire que pour eux, l'arrivée de l'image sur l'écran était un phénomène inexplicable. Ça arrivait forcément d'une façon ou d'une autre, mais c'est ça la grande différence.
C'est de l'ordre de la magie. Tame Impala sur France Inter, Borderline.
Bonsoir à tous et merci de votre attention. Direction Béziers.
Bonsoir et bienvenue à tous.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h de France 2.
Génie Le Sommer maintenant, la frappe de Le Sommer.
Oh, magnifique.
Oh, quel but!
Eugénie Deschamps.
À moins de 100 mètres de l'arrivée, Thibaut Pinot, le franc-comtois qui va aller s'offrir une victoire d'étape, une magnifique victoire d'étape, la troisième de sa carrière dans le Tour de France.
Réponse B.
C'est votre dernier mot.
C'est mon dernier mot.
Touche pas à mon poste. On peut rire de la télévision. Et vous, on en a marre des émissions médias sérieuses, n'est-ce pas le public?
Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô?
Regardez bien cette image. Le poisson Pierre a avalé sa proie en 1/50 de seconde.
Par exemple, Django serait à ma place ce soir à faire le portrait de l'invité. Il aurait déjà balancé quelques douzaines de saucisses de Francfort sur le public.
Un joyeux mélange signé Lola Costantini qui illustre bien la diversité dont était capable le petit écran. Quel avenir pour la télé? On se pose la question avec Bruno Patino d'Arte, Séverine Barthes, prof à Paris 3, Pascal Le Chevalier, consultant média, et Alexandra Akoun, spécialiste média de France Inter. Cette diversité donc est-elle menacée? La télé en flux de demain pourrait-elle se limiter uniquement aux grands événements, Pascal Le Chevalier?
Aujourd'hui, on sait que la télé, c'est... Et s'impose par le direct. Il y a un phénomène extraordinaire, l'information, qui reste quand même, malgré la présence de plein de chaînes, les JT, en particulier des deux principales chaînes, restent un point de rendez-vous très important.
Et pourtant, on a fêté leurs 70 ans cette année, donc voilà, tout pas tout jeune comme produit.
Ensuite, on a évidemment les événements sportifs, qui restent des points d'attraction très très forts. En France, en tous les cas, très peu concurrencés par d'autres modes de diffusion. Il y a quelques fédérations qui ont des petites plateformes, mais personne ne s'abonne et très peu sont les gens qui vont s'y connecter ou payer pour voir ces sports-là, qui restent confidentiels. Et puis ensuite, on arrive à avoir de grands événements. Il peut y avoir des jeux, parce qu'on est sur des programmes typiquement très exclusifs, ou des séries.
On parle d'événements, pourtant la télévision, historiquement, c'est un média de l'habitude. Bruno Patino, est-ce à dire que les chaînes telles qu'elles existent aujourd'hui vont disparaître dans le futur?
Alors il y a plusieurs questions, c'est-à-dire que évidemment tout se bouleverse et les usages se bouleversent, on va en parler, et donc le bouleversement des usages franchement pose la question de la survie économique d'un certain nombre de chaînes. Et moi je suis assez pessimiste quant aux capacités de survie économique des chaînes telles qu'elles vivent aujourd'hui, si elles ne redéfinissent pas leur modèle économique. Mais cela étant, vous parlez d'événements, c'est une évidence, mais l'habitude aussi est très importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dit, je travaille à Arte. Arte, on n'a pas beaucoup d'événements. Et pourtant, on sent bien que la télévision, c'est quand même 3h30 dans la vie des gens.
Quel est votre produit d'appel, par exemple, sur Arte?
Notre produit d'appel, c'est la chaîne en elle-même, c'est-à-dire c'est le fait d'avoir des documentaires, une proposition éditoriale, mais qui est dans une relation habituelle, encore une fois, avec le téléspectateur. Et donc, je pense que là, il y a quelque chose qui est très, très symptomatique de ce qui est en train de se passer, c'est comment vit-on les choses ensemble. Vous avez une partie de la population, sans doute la plus vieillissante, en tout cas la plus âgée, qui pense que pour vivre les choses ensemble, il faut le vivre en même temps. Et en même temps, ça peut être un grand événement, mais ça peut être aussi un rendez-vous habituel, vous regardez votre émission à la même, ou ça peut même être un film que vous avez vu 15 fois, qui va être rediffusé une 16e fois et que vous allez regarder alors que vous l'avez en DVD dans votre bibliothèque.
Ça, c'est très vrai pour les comédies de Noël, par exemple.
Mais regardez quand TF1, pour citer le, refait la 7e compagnie ou autre, ça fait un tabac. Qui peut dire que personne ne l'a vu? Tout le monde l'a vu, et pourtant vous avez ce besoin de synchronicité sociale.
Chez le Roi Lion a fait un carton sur M6 lundi dernier.
Exactement. Chez les plus jeunes, vivre les choses ensemble, ça n'est pas forcément les vivre en même temps. C'est-à-dire que le numérique a provoqué cette synchronicité sociale qui n'est pas forcément immédiate et dans le même temps. Donc, les événements sont transgénérationnels, mais l'habitude reste très importante dans la télé. Mais c'est vrai pour une population, on va dire, au-delà des 45.
Séverine Barthes, la télé, média de l'habitude, c'est un truc de vieux, donc?
Bah, quand on regarde l'âge moyen des téléspectateurs des différentes chaînes, on voit bien qu'il est relativement élevé, plus élevé que celui de la population globale. Mm-hmm. Donc le téléspectateur moyen est plus élevé que le français, est plus âgé que le français moyen. Et puis il y a des cycles un peu, alors jusqu'à présent, parce que là effectivement tout bouge, mais jusqu'à présent on voyait quand même que la télévision jouait des rôles différents suivant les âges. On regardait beaucoup la télévision enfant, et puis après adolescent et jeune adulte, on la regarde moins. Quand on s'installe, qu'on devient parents et qu'on sort moins parce qu'on a des problèmes de babysitter, on regardait davantage, enfin on revenait à la télévision. Et donc aujourd'hui, il y a sans doute encore quelque chose de ce cycle qui reste, sauf que la culture de la chambre des adolescents, qui pendant très longtemps a été la radio, la musique, les médias écrits alternatifs, etc. Et puis à mon époque, c'était on avait son propre téléviseur dans la chambre, c'était ça l'autonomie, c'était d'arriver à avoir sa petite télé à soi dans sa chambre. Bah aujourd'hui, ça passe peut-être par les ordinateurs, par YouTube, par Netflix. Et donc là, il y a peut-être un vrai changement dans la façon dont ce cycle de vie se joue.
Que les jeunes regardent moins la télé en flux hein, aujourd'hui qu'hier, c'est une certitude. Séverine Barthes, est-ce à dire pour autant qu'ils vont pas y arriver un jour en vieillissant, puisque ce sont les plus vieux qui la regardent, la télé linéaire.
Alors effectivement, moi je ne jouerai pas les devins, je ne sais pas, peut-être, on peut faire l'hypothèse que peut-être ils reviendront à des formes télévisuelles davantage de flux, parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'ils ne regardent pas la télévision, ils ne regardent pas la télévision de flux, mais ils regardent très souvent des contenus télévisuels de manière délinéarisée. Et donc là, il faut faire la différence entre le téléviseur et...
Et le replay et tout le reste, en fait. Alexandra Hakoun.
Oui, vous savez, les applications, ce qu'on appelle le Chromecast, qui permet en fait de lancer sur votre écran de télé des programmes qui sont... ou sur votre tablette, ou sur votre smartphone. En fait, la consommation, je sais pas si les jeunes vont, après des tablettes, passer à la télé. En revanche, ce genre de consommation, je pense, va se développer.
Où Bruno Patino disait tout à l'heure que c'est très compliqué de regarder la télé aujourd'hui. Enfin, l'usage est devenu de plus en plus complexe. Là, c'est une bonne illustration, le Chromecast.
Oui, mais à la fois, c'est 100 fois plus simple. C'est 100 fois plus simple. Vous savez, vous vous mettez sur le canal Chromecast de votre télé et vous envoyez sur votre écran de télé tout ce que vous voulez depuis votre téléphone.
C'est la nouvelle télécommande.
C'est la nouvelle télécommande et ça permet aussi de regarder des programmes en direct. Mais ça offre plus de fonctionnalités. C'est peut-être là aussi que les chaînes vont devoir faire des efforts. Ça permet de remettre au début un programme qui a déjà commencé, par exemple. Molotov aussi fait ça.
Molotov, c'est une application pour regarder toutes les chaînes de télé depuis son téléphone.
Exactement. Et voilà, c'est toujours de la télé, mais on en modifie les usages.
Bruno Patino.
Oui, en fait, chacun commence à avoir son mode d'accès. En fait, c'est pour ça que les grandes cathédrales qui étaient les chaînes de télévision, moi je crois plutôt aux chaînes de télévision qui ont des propositions éditoriales très précises.
Comme Arte, au hasard,
évidemment, c'est pour ça que je dis. Mais cela étant, ce qui est très intéressant, c'est que chacun a son mode d'accès, chacun a son mode d'usage. Et quand on parle des jeunes sur la télévision, évidemment, ils n'ont jamais autant consommé de vidéos, entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais eu autant d'images animées. Donc déjà, ça s'est désacralisé et en même temps, ça se sacralise parce qu'on a des productions qui sont de plus en plus extraordinaires. Mais sur le téléviseur lui-même, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir à quel point, effectivement, tous les usages délinéarisés arrivent sur le téléviseur. Et en ce moment, pour parler des grandes plateformes, YouTube fait une progression phénoménale sur le téléviseur. Et c'est dû aux plus jeunes, parce que pour les plus jeunes, pour certains d'entre eux en tout cas, leur plateforme native, si j'ose dire, c'est YouTube, c'est celle qui les accompagne sur leur smartphone, sur leur tablette quand ils en ont une, ou sur l'ordi plutôt, et sur le téléviseur, ça les accompagne là. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand ils regardent YouTube sur le téléviseur, ils ne regardent pas exactement la même chose que quand ils regardent YouTube sur leur smartphone.
Ah non.
Non.
Alors c'est quoi ? Le contenu est différent ?
Un peu plus long. Donc on peut imaginer, peut imaginer qu'on s'installe. Et donc on voit bien que chacun en fait empile tous les usages qu'il souhaite avoir.
Pascal Le Chevalier, est-ce que vous diriez que les grandes chaînes de télé ont complètement loupé le virage du numérique, le virage de la SVOD ?
Ah oui, alors là le virage de la SVOD, c'est pas qu'ils l'ont raté, c'est qu'ils ont fait une sortie de piste phénoménale. Hein.
Ils n'ont rien vu venir ?
Si, ils ont tout vu venir, mais ils ont rien voulu faire. Et je vais pas retémoigner de ma carrière passée où j'ai essayé
chez TF1 notamment.
Oui, entre autres, où j'ai porté un projet de SVOD et qui n'avait à l'époque rassemblé absolument personne parce que personne ne voyait. Alors c'est très très difficile d'avoir une boule de cristal. Les Yaka Faucon et après le coup, c'est toujours facile de réagir. Quand en 2007-2008, il a fallu prendre des décisions sur ces sujets-là, personne n'y croyait. Je vous rappelle qu'il y avait en France le trauma de TPS qui avait été vendu par TF1 à Canal, que Canal régnait en maître sur la télévision payante. Et puis,
on ne voyait pas d'autres modèles que Canal+ pour le payant en France.
Personne ne se posait la question. TF1 drivait la télévision privée en France, en tous les cas basée sur le revenu publicitaire, et l'objectif primordial et essentiel de la chaîne et de M6 d'ailleurs la même chose, c'était de développer le chiffre d'affaires publicitaire avec des dispositifs qui étaient de fidéliser l'audience, d'avoir beaucoup de répétitions, parce que aujourd'hui je vous rappelle que quand on calcule un GRP, qui est un truc qui permet de valoriser l'espace publicitaire, c'est de la couverture par de la répétition. Donc en gros, faut avoir touché beaucoup de monde et à plusieurs reprises. Mmh. Donc toutes les grilles de programme ont été construites comme ça. Et
donc Bruno... c'est tout le modèle économique qui est mal conçu finalement.
Bien sûr, et c'est ce qui permet aussi de justifier qu'à un moment donné, une chaîne comme Arte arrive à se distinguer, parce que justement, ils n'ont pas les mêmes contraintes éditoriales que de créer cette fameuse, même s'ils ont créé des habitudes, on n'est pas dans cette guerre de dire c'est le chiffre d'affaires publicitaire qui conduit, qui drive tout le reste. Et c'est ça qui a fait que ce monde de la télévision des années 2000 n'a pas vu venir le tournant de la SVOD et passer un peu à côté.
Mais qu'aurait-elle dû faire précisément les chaînes de télé, à votre avis, hein, Pascal Le Chevalier, lancer des offres payantes en parallèle pour amorcer ce virage ?
Les chaînes de télévision française était suffisamment riche pour créer des labs. Il y a eu plein d'expérimentations de mener, de s'allier. Je pense aussi que les chaînes de télévision françaises sont passées à côté de l'enjeu européen. Très très peu de chaînes aujourd'hui, encore une fois, en dehors de la chaîne franco-allemande, ont réussi à monter de véritables partenariats européens. Alors aujourd'hui, ça commence. Il y a des accords entre TF1 et certaines autres plateformes. France Télévisions aussi, qui a créé l'Alliance.
Salto, hein, qui est une future plateforme.
Alors Salto sera franco-français avec tout un tas de contraintes. Mais voilà.
Quand Salto arrivera.
Quand Salto arrivera. Et je crois qu'on est passé à côté de ça. Et faut aussi expliquer qu'on s'est concentré sur la création et l'addition de chaîne TNT, parce qu'on pensait que c'était en multipliant les offres qu'on arriverait finalement à capter et à maintenir des audiences globales du public. Et aujourd'hui, quand on regarde, le CSA publie les chiffres, les résultats financiers de l'ensemble des chaînes de la TNT, on a quasiment que des pertes, à de rares exceptions près. Donc ça veut dire que ce modèle-là, aujourd'hui, il est très très challengé et ça va être très compliqué.
Alexandra Alcoun, vous rejoignez Pascal Le Chevalier pour dire que les chaînes ont tout loupé en la matière ?
Ah oui, complètement. En plus, regardez, Netflix est déjà à 5 millions d'abonnés en France. Enfin, ça fait déjà quelques années quand même que Netflix est arrivé, parce que c'est ça qui leur fait vraiment peur à l'heure actuelle. Je pense que Netflix, quoi, s'est lancé. Moi, j'habitais aux États-Unis en 2003. Netflix était déjà là, était déjà installé. Bon, c'était un système de DVD que vous renvoyiez par la poste à l'époque. Mais enfin, il y avait déjà du changement. Et ces changements, ils auraient dû les voir. Enfin, c'est. On se demande pourquoi il n'y a pas eu de réaction plus tôt. Et alors maintenant, on nous promet Salto. Alors bon, on attend toujours que l'autorité de la concurrence.
Donc Salto, rappelons-le, c'est
vert.
Un mariage entre M6, TF1 et France Télévisions.
Et France Télévisions. Qu'est-ce que cette plateforme va pouvoir nous offrir qui soit vraiment intéressant? Vous disiez en plus, on en discutait tout à l'heure, vous n'étiez pas encore là, Dorothée, hors antenne avec Bruno Patineau, qui disait en plus, voilà, par rapport aux droits qui sont détenus, qu'est-ce qu'on va retrouver exactement sur cette plateforme? On n'en a aucune idée, mais ils arrivent très très tard sur le marché.
Des réactions d'auditeurs qui nous parviennent. Mathieu, 16 ans, sur mon téléphone, j'ai les applications de France Télé, d'Arte, etc. Je regarde peu, voire pas du tout la télévision sur la télé du salon, mais plus en replay. Pour moi, cette question, dit-il, c'est comme celle qui fut posée sur le sort de la radio, qui aujourd'hui fonctionne en podcast ou sur Internet. Pour moi, c'est juste de la forme et non sur le fond que cette révolution numérique se fait. Bruno Patineau.
Oui, mais je ne voudrais pas défendre ici les chaînes dans leur passé, parce que ce qui a été dit est tout à fait juste, mais plaçons-nous du côté du téléspectateur. La vraie révolution qui a eu lieu aussi, c'est celle de la fiction et de la série. C'est-à-dire qu'au total, vous aviez des chaînes qui vivaient grâce au marché publicitaire sur des émissions de flux, beaucoup d'entre elles, et... La télé payante, encore une fois, quand on parle de Canal il y a 10 ans, on parle pas des séries de Canal, même s'il y avait déjà les séries de Canal, évidemment, mais on disait c'était sport et cinéma. Donc sport, des droits très chers, et cinéma, des droits très compliqués, on va dire ça comme ça, à avoir, ou très chers parce qu'un accord global. Mais ce qui s'est passé, c'est la révolution de la série. C'est-à-dire la révolution du récit permanent qui se multiplie. La série, c'était chez TF1 à l'époque, il y avait quelques séries françaises, mais surtout des séries américaines rediffusées, sur lesquelles les droits étaient compliqués. Je pense que ce qui s'est modifié considérablement en même temps, c'est ça qui est très intéressant. Je ne sais pas s'il y a une corrélation dans le temps, je ne sais pas s'il y a un lien de causalité entre la révolution numérique et la révolution des fictions. C'est-à-dire que dans le même temps arrivent des usages entre guillemets non linéaires, c'est-à-dire qui ne passent pas forcément par la consommation en même temps de toute chose, et en même temps arrive un foisonnement inouï des récits, des séries qui sont aujourd'hui vraiment la forme narrative, j'allais dire principale, qui est partagée toute génération et toute classe sociale confondue.
Séverine
Ce qui est très intéressant, c'est ça, me semble-t-il.
Cet engouement pour les séries, Séverine Barthes, on peut quand même essayer de le lier à la révolution numérique, pour vous, ou pas du tout?
Ça dépend de ce dont on parle, moi je trouve, puisque et d'où on parle. Puisqu'évidemment, comparer les États-Unis et la France, par exemple, l'âge d'or des séries n'arrive pas au même moment ou autre, et donc ça joue sur des choses pour l'analyse. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, dans ce marché mondialisé qu'est la télévision, parce que c'est ça aussi, pendant le numérique, sa principale
caractéristique,
j'ai envie de dire, c'est l'aspect mondialisé des contenus. Avant, moi, française, pour voir une série américaine, il fallait que j'attende qu'une chaîne l'achète, la programme, la double, etc., etc. Aujourd'hui, effectivement, avec Netflix, avant avec le piratage, je pouvais avoir accès beaucoup plus rapidement.
Ceci est un aveu.
À des productions américaines, et donc il y a une forme d'accélération de la consommation, de l'accès au contenu. Et parallèlement à ça, on a aujourd'hui aux États-Unis ce qu'on appelle la peak television, c'est-à-dire une espèce de pic de programmation. On n'a jamais produit autant de séries, on est quasiment à 500 séries par an aux États-Unis, et donc il a fallu multiplier les canaux de diffusion parce que ça s'engorge.
Ça fait trop.
Mmh. Et donc, de ce fait, les plateformes, que ça soit Amazon Prime, que ça soit Netflix, que ça soit Hulu, qu'on n'a pas en France, mais qui, aux États-Unis et sur certains autres marchés, se développent, ont été aussi non seulement des pourvoyeurs de programmes originaux, mais surtout des sortes de déversoirs de toutes ces productions pour lesquelles il fallait trouver des seconds marchés.
C'était une histoire d'offres et de demandes à ajuster, finalement, Bruno Patineau.
Oui, mais... Tout ça est très juste, mais encore une fois, dans votre générique au début, il y avait tous ces sons télévisuels. Je pense que si on avait montré, on va dire, à un ensemble générationnel, on les avait fait écouter, les seuls qui auraient été reconnus immédiatement, c'est le générique de Game of Thrones. Mm-hmm. Parce que là, ça disait quelque chose à toutes les générations. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir là où on ne peut jamais dire que la télé est morte, c'est qu'elle essaye de se réinventer de façon narrative en permanence. Donc oui, je pense qu'une certaine télé de plateau vieillit. Oui, je pense que les jeux télévisuels sont un format qui vieillit énormément. Ce qu'a dit Pascal est tout à fait juste. Les grands événements, la synchronicité sociale, ça ne vieillit pas. Mais aujourd'hui, et je ne sais pas s'il en sera comme de même pendant dans 10 ans, on est dans un espèce d'âge d'or quand même en termes de présence sociale de la série qui fait que elle trouve tous les moyens effectivement de nous parvenir par les chaînes, par les applications, les grandes plateformes.
Pascal Le Chevalier.
On a dit que la télé avait raté la SVOD. Par contre, il y a quelque chose qu'elle n'a pas raté, mais elle l'a pas fait toute seule. C'est quand même ce qui a été développé autour du replay, qui est quand même aujourd'hui un véritable succès. 10 milliards de vidéos vues l'année dernière.
25% de replay en plus en France en deux ans. Alexandre.
Ouais. J'ai regardé les chiffres publiés par le CNC. Je crois qu'aujourd'hui, la principal terminal sur lequel est consommé le replay, c'est le téléphone mobile. Mais tout ça ne peut se faire sans un des acteurs qu'on a oublié de citer, qui sont quand même les opérateurs télécoms, qui sont aujourd'hui quelque part en embuscade, parce que rien ne peut se faire sans eux. Et que c'est, je le rappelle, le premier mode de distribution de la télévision aujourd'hui passe par les box, en tous les cas en France.
L'engouement pour le replay, Alexandra Hacoun, ça prouve en tout cas que le public trouve ce qu'il cherche à la télévision.
Oui, et puis l'auditeur dont vous citiez les propos, là, ce sont des produits télévisés, de la télévision qu'il consomme, mais avec en une replay. Temporalité différente.
Mais est-ce qu'il fait le lien, le consommateur, le téléspectateur, est-ce qu'il sait de quelle chaîne il est en train de regarder lorsqu'il regarde du replay?
La difficulté, c'est que s'il va chercher le programme via une application de la chaîne, oui, mais les programmes sont aussi partagés sur les réseaux sociaux. Donc, si on le retrouve de plateforme en plateforme, est-ce que vraiment il y a la chaîne? Mais je voulais donner un petit exemple aussi. À partir de ce soir, il y a Fargo qui est diffusé
en pleine nuit
sur France 2, qui est une excellente série. D'accord, elle est sur Netflix, mais pour une fois que le service public France 2 achète une série comme ça, pourquoi il la diffuse à 1h05 du matin? Alors oui, il y a le replay. Est-ce que c'est pour favoriser le replay, justement? Je sais pas.
Bruno Patineau.
Non, mais je pense que le replay, c'est important. Je vous donnais un exemple. Moi, j'appelle plus ça du replay, pour être très franc.
D'ailleurs, sur Arte, souvent, c'est en ligne avant même la diffusion télé.
Oui, ou même de temps en temps, en ce moment, sur Arte, vous pouvez regarder les 3 saisons de Borgen. Elles sont en ligne depuis
série danoise.
Depuis 15 jours, 3 semaines. Elles vont être en ligne jusqu'à l'automne. Et c'est pas accolé à un moment donné à une diffusion antenne, même s'il est probable qu'on le rediffusera à l'antenne. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui que vous avez des populations qui ont des rapports à la chaîne très différents et qui vont sur arte.tv pour voir ce qu'il y a sur arte.tv, peu importe quand c'est diffusé ou si c'est diffusé à l'antenne. En revanche, ce qui a été dit par Alexandra est tout à fait juste, c'est-à-dire que le vrai enjeu pour des chaînes de télévision qui deviennent finalement des éditeurs, soit parce qu'ils produisent les programmes, soit parce qu'à un moment donné, ils les labellisent d'une façon ou d'une autre, c'est cette attribution. C'est-à-dire comment rester dans le paysage mental du téléspectateur, internaute ou autre, si effectivement les chemins d'accès sont si différents, si vous passez de temps en temps par l'appli de... Ça, c'est très compliqué.
Voilà, internaute qui va diffuser sur Facebook, par exemple, un extrait de reportage d'M6 ou de France 2 ne saura même pas que ça a été fabriqué par M6 ou France 2.
Souvent, il ne le saura.
Ça, c'est un problème pour l'image de marque de la chaîne.
Oui, puis pour son devenir, puis pour sa relation. Mmh. Moi, je pense encore une fois qu'entre une proposition éditoriale et un téléspectateur ou un auditeur ou autre, il y a une relation qui se crée. Donc, là où je prends mon métier au sérieux, c'est que je pense que nous sommes en fait des gens qui établissent une relation entre un contenu et des auditeurs, et que dans cette relation, c'est très important de savoir ce qu'on propose et où on se place. Mais c'est vrai que les chemins d'accès, souvent, il m'arrive de répondre à des tweets où les gens se plaignent, par exemple, me disent « comment ça se fait sur le replay d'Arte, il n'y a pas la VO ». Il y a la VO. Mais ça dépend où vous regardez le replay. C'est-à-dire que si vous regardez sur arte.tv, ben il y a la VO. Si vous regardez sur l'application d'Orange sur le replay, il n'y a pas la VO parce qu'Orange ne veut pas le mettre, etc. etc.
Et on en revient à la complexité des voies d'accès.
Expliquer ça à la personne, suivant son mode d'accès, il n'aura pas le droit à la même chose.
La vidéo a tué les stars de la radio, c'est pas moi qui le dis, ce sont les Buggles qui l'affirment. Le débat de midi est préparé par Anna Massardi avec l'aide de Camille Kaufmann, Kevin Pelot et Charles Leca à la technique, programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. les Buggles en 1979. Nous parlons Téloche jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Et je me tourne vers Bruno Patino, directeur éditorial d'Arte. Une question très précise d'auditrice. Monsieur Patino, pourquoi certains films ne sont pas visibles sur Internet? Je pense notamment aux Sorcières d'East Week d'hier soir sur Arte. Merci pour votre réponse.
Eh bien, je vais répondre directement.
C'est le service après-vente.
Oui, non, mais ça c'est tout à fait normal. C'est une question qu'on nous pose souvent parce qu'on nous demande pourquoi il n'y a pas de rattrapage sur les films. Il faut savoir que c'est une discussion qui se passe avec les détenteurs de droits. Donc quand ils acceptent de nous donner les droits de rattrapage, on propose les films en rattrapage, et quand ils n'acceptent pas, on ne peut évidemment pas le proposer. C'est une discussion qui est toujours très très compliquée. Je dois dire qu'elle se simplifie petit à petit d'année en année, parce que
c'est insultant pour les ayants droit, le replay, c'est moins prestigieux que la diffusion télé.
Non, il y a toujours eu cette discussion de perte de valeur, c'est-à-dire si je le mets en rattrapage, mon film va perdre de la valeur. Tout ce qu'on essaye de démontrer, nous, en étant certain de fait, c'est que l'exposition d'un film en rattrapage après sa diffusion antenne lui fait prendre de la valeur et non pas perdre de la valeur.
Tout ça vous fait sourire, Pascal Le Chevalier?
Ah oui, c'est une discussion qui dure depuis 20 ans. Alors,
l'exception culturelle française.
Voilà, c'est l'exception culturelle. Je souligne que Arte est justement une exception parce que on peut trouver des films diffusés en rattrapage de temps en temps sur Arte, ce qui n'est pas le cas des autres chaînes, à l'exception de Canal qui l'a inclus dans ses droits avec une rémunération supplémentaire pour les ayants droit, dont acte, et que la diffusion rattrapage du cinéma soulève le problème de la présence des films post-diffusion télé avec les jours interdits. Enfin, il y a tout un tas de sujets.
Les jours interdits, c'est les jours où on n'a pas le droit de passer un film à la télé.
Tout à fait, et sachant que les plateformes, évidemment, peuvent continuer à diffuser des films. C'est là où on voit l'absurdité du système aussi réglementaire dans lequel nous sommes entrés. C'est que, malheureusement, les plateformes ne sont pas régulées au même titre que les chaînes de télévision, et ça pose un vrai sujet d'équité, de concurrence, et pour l'instant, la solution n'existe pas, il y a plein de débats, on attend de nouvelles lois audiovisuelles.
Il faut préciser, Alexandra Akoun, les jours interdits, c'est quelque chose de très important dans la réglementation française. On n'a pas le droit, en France, à la télévision, de passer un film tel et tel jour de la semaine.
Par exemple, le mercredi.
Et
le samedi.
Voilà, et ça fait, et ça fait hurler les dirigeants de chaînes. Les choses bougent en la matière.
Oui, effectivement, on attend la loi audiovisuelle, ça fait quand même quelques mois qu'on l'attend. Normalement, on devrait être fixé d'ici peu, mais c'est vrai que
c'est important, le cinéma à la télé. Évidemment.
C'est très important, mais ce sont des accords qui datent de 1986, les derniers, et on est quand même en 2019, donc oui, et ils se retrouvent forcément en porte-à-faux par rapport à ces plateformes. Quand je dis ils, les chaînes se retrouvent en porte-à-faux par rapport aux plateformes qui, elles, peuvent diffuser quand elles veulent.
Séverine Barthes.
Oui, ces jours interdits sont effectivement des choses extrêmement anciennes. Alors, il y avait eu des petits aménagements, parce que par exemple, sur les chaînes du câble, qui sont dédiées au cinéma ou autres, il y a des possibilités de les passer. C'est très drôle de voir comment, par exemple, la 5 avait joué au moment de son lancement, disant un film par soir, en passant des téléfilms qu'elle faisait passer plus ou moins pour des films de cinéma, les soirs interdits. Mais cette question du cinéma, le cinéma a très longtemps et toujours en partie peur de se faire déposséder, voler par la télévision. Et cette question de la valeur, moi je trouve qu'elle rejoint même, j'irais même plus loin que le débat à 20 ans, moi je trouve qu'elle rejoint des problématiques de Walter Benjamin sur l'aura de l'œuvre d'art et comment au moment de la reproductibilité technique, la photographie aurait moins de valeur que la peinture.
C'est une forme d'arrogance de l'artiste ?
Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là.
Bruno Patino.
Non, la référence à Walter Benjamin est vraiment intéressante, en tout cas elle est très pertinente au moment du numérique. Moi je pense que si on se place du côté de l'utilisateur, et nous sommes tous des utilisateurs, téléspectateurs ou autres, il y a quelque chose d'inconcevable à l'indisponibilité. C'est-à-dire que vraiment tout ce qui se passe, tout ce dont on parle aujourd'hui, rend les choses disponibles dans tout lieu, à tout moment,
on ne supporte plus
de
la
toutes
frustration.
Les façons. Et donc, si vous voulez, il y a un enjeu pour le cinéma qui est d'être disponible, c'est-à-dire d'être visible quand on a envie de le voir.
Alors, avec le développement des plateformes de streaming, se pose la question du choix de l'abonnement, qui est assez cornélien. Impossible de s'abonner à tout, à Canal+, à OCS, à Netflix, sans compter les plus petites plateformes. Nous sommes en ligne avec le fondateur de Tank. Bonjour Jean-Marie Barbe.
Bonjour.
En direct depuis Lussas en Ardèche, où se tiendront le mois prochain les états généraux du film documentaire. Tank, ça s'écrit T-E-N-K, c'est un site internet disponible sur abonnement qui propose des documentaires d'auteurs. Vous existez depuis 3 ans, je crois, et vous avez quelques 7000 abonnés individuels. Est-ce que c'est suffisant pour vivre? Est-ce que vous êtes serein pour l'avenir?
Alors, serein pour l'avenir, oui, parce qu'on est d'un naturel optimiste, on va dire. Mais 7000, c'est pas suffisant, bien sûr. Mais l'équilibre, notre équilibre, nous, est autour de 10 000 abonnés. Mais c'est pas suffisant, 10 000 abonnés. C'est un entre-soi qui, intellectuellement, culturellement, nous convient pas. L'ambition de Tung, c'est d'être une plateforme qui soit dans des, je dirais, des niveaux d'abonnement plus conséquents, 50, 60 000, ça viendra dans les 10 ans, sur le territoire francophone européen.
L'abonnement est à 6 euros par mois, je crois. Comment est-ce que vous avez fixé ce prix, Jean-Marie Barbe ?
Ben, on s'est basé sur nos coûts, coûts auprès des ayants droit, coûts de fonctionnement des salaires.
Donc c'est pas une question de positionnement par rapport à la concurrence, c'est pas une question d'étude de marché, de comparer aussi, au prix de Netflix par exemple.
Si, absolument, c'est aussi une question de concurrence, et du coup nous on se situe plus en complément de ces grosses plateformes SVOD ou du monde de la télévision comme une espèce de supplément d'âme, d'images rares, de films créatifs, résolument et éditorialement très 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 marqués.
Vous mesurez qu'on ne peut pas s'abonner à tout ?
Comment ?
Vous mesurez qu'on ne peut pas s'abonner à tout, que c'est compliqué de multiplier les abonnements ?
Absolument. Mais on pense qu'on peut s'abonner à Netflix et à côté s'abonner à un univers ciné, à un Tunk, à des petites plateformes qui sont pas très chères en termes d'abonnement et dont moi j'ai la conviction qu'il faut qu'elles créent un portail commun d'offres, on va dire, des indépendantes, c'est-à-dire des films qu'on peut ou qu'on ne voit pas ailleurs.
Et ça manque de documentaires, la télévision linéaire d'aujourd'hui, vous diriez ?
Alors, la télévision linéaire d'aujourd'hui, elle a un peu déserté le documentaire d'auteur. Ça manque pas de documentaires qui documentent. Ça manque d'œuvres singulières, d'œuvres qui sont plutôt dans le champ de la création et de l'art que dans le champ de la com et des grands dossiers. Par contre, la télé agit pleinement, et je trouve plutôt assez magnifiquement dans ce pays, sur les grands dossiers, j'allais dire... La bonne télévision de service public, c'est aujourd'hui des formes classiques appliquées à des thématiques de société, des thématiques contemporaines importantes. Donc ce rôle-là, elle le joue. Mais à côté, il y a tout un champ de création et de créativité avec des regards beaucoup plus travaillés, au niveau de la forme, surtout. Aucun film ne se ressemble. Et ces films, on les voit dans les festivals, on les voit... aidés par des petites télévisions, c'est-à-dire qu'en gros, on ne les voit pas.
D'où l'idée de votre site internet.
Tunk, absolument.
Merci beaucoup, Jean-Marie Barbe. Le temps file, malheureusement. Rendez-vous sur tunk.fr pour en savoir plus. Et je rappelle surtout que les états généraux du film documentaire, ce sera à l'USAS en Ardèche du 18 au 24 août. Merci à vous et bonne journée. Alexandra Hakoun, la multiplication des offres, des plateformes, ça va finir par poser problème peut-être.
Ah ben forcément, forcément. On ne peut pas multiplier. Alors vous citiez toutes celles qui existent, mais il y en a plein qui vont arriver.
Disney Plus, par exemple.
Alors il y a Disney Plus qui arrive le 12 novembre et qui possède quand même, alors j'entendais bien, c'est bien d'avoir des plateformes avec du cinéma, avec des films, mais là ils ont tous les Marvel, tous les Pixar, ils ont la licence Star Wars, à mon avis les gamins et puis les parents, enfin voilà, tout le monde va se jeter là-dessus. Il y a HBO Max qui va être lancé l'année prochaine, il y a NBC, HBO Max c'est Warner.
Vous pensez-vous aussi que tout le monde va se jeter là-dessus en France, Pascal Le Chevalier ?
Déjà, pour Disney, on va attendre 2020, puisque le lancement est US. Il va y avoir en France, on va avoir deux sujets. Et là, il va falloir sortir les billets, parce qu'on va avoir le sujet du sport en 2020. Les abonnements aux offres sportives, aux grandes compétitions. Je vous rappelle que le marché a été complètement éclaté. Donc, on ne sait pas ce que va faire Mediapro. Donc déjà, dans un foyer normal, si vous voulez investir dans le sport, il va falloir dépenser... on ne sait pas combien pour l'instant. Et puis ensuite, il va falloir arbitrer sur les plateformes. Je souligne quand même que sur Netflix, il y a quand même pas mal de partage de comptes. et qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés sans rien payer.
Voilà, on peut payer un abonnement, mais le regarder à plusieurs. C'est
tout à fait.
Pour, hein. Bruno Patino.
Je pense que si on regarde sur la durée, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on pense toujours qu'une modification ou une révolution technologique va nous permettre d'économiser de l'argent. Et en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que, non, je suis très, très sérieux. Ouais, depuis l'après-guerre, si vous regardez, les ménages, européens en tout cas et nord-américains, n'ont cesser de payer plus à chaque fois pour leur offre d'information, de divertissement et de culture. C'est un universitaire, c'est Robert Picard qui a bien mesuré ça sur toute la durée. Et donc c'est pareil, quand les grandes plateformes sont arrivées, Netflix, etc., il y a eu ce phénomène qu'on a appelé aux États-Unis les cord cutters, c'est-à-dire les gens qui coupaient leur accès au câble qui coûte 150, 160 dollars en moyenne aux États-Unis par mois, en se disant, bah oui, ils vont prendre l'offre, j'allais dire Internet, ils vont coupler à la Wi-Fi un Netflix à 10 dollars, et puis c'est fait. Et en fait, on s'aperçoit que ça s'empile et qu'aujourd'hui, les études qui apparaissent nous disent qu'ils vont dépenser au moins, au minimum, ce qu'ils dépensaient pour le câble et sans doute plus. Et nous, il en sera de même. C'est-à-dire que, et il est évident que même si on va essayer d'arbitrer ou d'économiser, au final, on ne se sera pas abonné à tout, mais on dépensera plus qu'on ne dépensait avant. Donc certains vont devoir sans doute baisser leur prix. C'est déjà le cas de Canal+, même si ça ne se fait pas de façon officielle comme
Netflix
ça.
Netflix aussi teste une offre un peu moins chère.
Et donc on va payer plus pour le sport, pour les événements. On ne cesse de payer plus à chaque fois.
Alexandra Hakoun.
En revanche, je ne suis pas sûre qu'il y ait de la place pour tout le monde. Il va forcément y avoir des morts parmi les plateformes. Et pour citer le prix, alors effectivement, vous avez raison, HBO Max sera lancé d'abord en France et puis Disney, d'abord aux États-Unis, pardon, et Disney aussi. Mais HBO Max, quand même, il se lance à 14,99 $. C'est très cher. C'est très cher pour la télé.
Séverine Barthe.
Mais c'est beaucoup moins cher aux États-Unis que de s'abonner à HBO par le câble classique. Et donc en fait, il faut faire là aussi, il faut distinguer entre le marché américain et le marché français où historiquement, notamment par exemple, l'accès à Internet est beaucoup moins cher en France qu'aux États-Unis. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la péréquation. Évidemment, il y a beaucoup de plateformes, quoi qu'il en soit, et il y aura sans doute des morts. Ça, c'est évident.
Un dernier mot rapidement sur la baisse du nombre d'abonnés aux États-Unis Netflix. Est-ce que c'est le début de quelque chose, selon vous, Séverine Barthe?
Je pense que c'est un peu compliqué. Netflix avait toujours avancé beaucoup de projections en très disant ambitieux. On aura beaucoup plus d'abonnés, etc.
Parce qu'il y a le Chevalier.
C'est un trimestre pour l'instant, je pense que c'est un peu tôt pour parler.
Et puis Netflix est pris comme dans une spirale qui est très compliquée, qui est de forecaster en permanence du fait de prévoir des chiffres de vente. Donc déjà, c'est un exercice périlleux de le faire au trimestre. Et ce chiffre de moins 126 000 abonnés, en fait, on ne sait pas de quoi il est constitué. Parce que c'est la différence entre les recrutements et les gens qui sont partis. Donc oui, ça fait moins 126 000, mais on ne sait pas exactement, au-delà du fait de dire que c'était l'effet prix, mais on ne sait pas sur quelle population, à quel moment exactement. Etc.
Allez, le temps file, il faut laisser vivre la musique sur l'antenne de France Inter.
Hypersensible et sauvage. sentiments glacés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire en larmes si vite.
C'était Isia sur France Inter, trop vite. Mes quatre invités ont débattu sur l'avenir de la télévision. On approche de la fin de l'émission, j'ai une toute dernière question à leur poser.
Le débat de midi sur France Inter.
Personne n'y échappe dans le débat de midi. J'aimerais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis. On commence avec vous, Bruno Patino.
Oui, si vous voulez. En fait, je change d'avis assez souvent, mais l'un sur lequel j'ai même écrit un livre dessus, vous l'avez cité, c'est la civilisation du poisson rouge. Moi, j'ai fait partie des gens qui pensaient que toute intervention du régulateur sur le net était une mauvaise chose. J'ai changé d'avis.
Vous pensez désormais qu'il faut faire quelque chose pour lutter contre l'emprise des géants du web sur notre attention?
Oui, je pense à ça. Je pense qu'en fait, sans intervention, c'est une jungle.
Voilà, on rappelle pourquoi le poisson rouge d'ailleurs, pourquoi ce titre?
Juste, c'est le temps d'attention du poisson rouge qui est de 8 secondes et des millénials qui est de 9 secondes.
Voilà, le temps de cerveau disponible est extrêmement restreint. Même question pour vous, Séverine Barthes, avez-vous changé d'avis?
Moi je vais être sur une autre thématique. Pendant très longtemps, j'ai regardé avec un peu de dédain la littérature française super contemporaine, me réfugiant dans les bons vieux classiques du 19e, et j'ai fait quelques belles découvertes.
Qui s'appelle
Par exemple, Laurent Godet, que j'aime beaucoup, et qui m'a réconciliée.
Qui a sauvé la littérature contemporaine à vos yeux. Même question pour vous, Pascal Le Chevalier.
Alors moi, je vais être dans l'actualité. Pendant très longtemps, jusqu'à hier après-midi, j'ai cru que, malheureusement, il n'y aurait pas de Français qui pourraient gagner le Tour de France.
Et vous voyez la Philippe en jaune sur les champs.
Pas forcément, là, ils sont deux dans les quatre premiers, et j'espère que...
Vous espérez.
Bah oui.
Pas encore sûr.
C'est pas moi qui pédale. Hein.
Et c'est Alexandra Akoun qui termine. Sur quoi avez-vous changé d'avis, Alexandra?
La Bretagne.
Ah, sans blague.
Ah ouais, la Bretagne, pendant des années, je pensais qu'il y faisait toujours un temps pourri. Oh, je refusais d'y mettre les pieds.
Mais non, ça
et
vous
en
gagne.
Fait,
comme
c'est
chacun
très...
sait, il ne pleut que sur
voilà,
les
donc
cons.
Je présente mes excuses à tous les Bretons et c'est magnifique en plus. Et voilà.
Un grand merci à tous les quatre. Bruno Patino, Pascal merci. Le Chevalier, Alexandra Akoun, Séverine Barthes. Les références de vos ouvrages sont sur notre site internet, La civilisation du poisson rouge. C'est chez Grasset. Nous revenons demain. Avec un débat tout à fait de saison, faites-vous une différence entre voyage et tourisme? Et si oui, vous êtes-vous déjà demandé si cette différence n'était pas un peu élitiste, voire snob? Autrement dit, le voyageur est-il un touriste qui a les moyens? N'hésitez pas à nous raconter votre vision du voyage. Pourquoi voyagez-vous? Et à quoi servent les voyages si la question de l'utilité a un sens? Rendez-vous sur franceinter.fr.